Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Radio Fringale, bienvenue pour ce Fringale Live, on essaye de tenir un petit peu la cadence, pas d'émission sortie en direct cette semaine, mais vous nous retrouvez en live pour faire un petit point sur ce qu'on a pu voir cette semaine, une grosse semaine de vélo avec notamment le Tour de Catalogne, le 3 Saxo Classique et bien évidemment Grand Vemel Game aujourd'hui. Pour m'accompagner ce soir pour le débrief de cette semaine, c'est Adri. Salut Adri, comment vas-tu ?
Salut la Thorne, bonsoir à toutes et tous. Ben écoute, ça va, en pleine forme, on a mangé du beau vélo cette semaine, donc c'était cool, même si le suspense n'était pas ce qui était au top cette semaine. Quoique aujourd'hui, on a quand même eu une course où la fin était top, et comme souvent maintenant sur Grand Vemel Game, il y a, malgré un profil moins difficile qu'un Tour des Flandres, c'est toujours des belles courses sur ces dernières années, donc je me suis vraiment régalé. Voilà, donc je suis bien content de pouvoir partager tout ça ce soir.
Malo Philippe qui nous balance direct dans le chat, le tour sera plus incertain que prévu. À mon avis, au vu du Tour de Catalogne, il ne parle pas du Tour de France. Pour nous accompagner également ce soir, salut Loïc. Loïc, c'est ton premier live, comment vas-tu ?
Salut, ça va, j'ai essayé de m'inspirer un peu des puissances des gars qu'on a vus cette semaine, mais ce week-end, ça n'a pas trop marché pour moi sur mes courses, donc je suis un peu claqué, mais on va essayer de tenir le live et on va essayer de décrire ces magnifiques performances.
Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes résultats du week-end, Loïc, comme ça, pour faire monter la sauce ?
Oh non, c'est pas nécessaire. J'ai dû finir dans le 35e, un truc comme ça, sur ma course d'aujourd'hui. Bah, je me suis fait lâcher à trois tours de l'arrivée, circuit ultra technique. Normalement, ça devait bien m'aller, mais j'étais complètement claqué. Donc, ça, c'était pas exceptionnel.
Mauvaise préparation ou simplement mauvaise journée ?
Bah, je pense que le fait d'avoir fait que les intensités cette semaine, d'avoir fait des tests FTP, c'était pas forcément la meilleure préparation. Mm-hmm. Donc, je me suis un peu mis dans la carbo tout seul, quoi.
Est-ce que tu veux dire que tu as eu une semaine un peu compliquée, telle Wooty avant vendredi ?
Oh, peut-être. Hein. Est-ce que j'accuse le surentraînement comme certains ? Peut-être.
Ok, messieurs, dames, vous êtes déjà nombreux, c'est cool. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit like et tout pour faire monter le live sur YouTube et qu'on soit nombreuses et nombreux en direct à discuter de cette semaine. Les gars, je vous propose qu'on attaque plutôt par le Tour de Catalogne, si ça vous va, parce que finalement, c'est ce qu'on a eu peut-être d'un peu moins incertain cette semaine. Je vous propose qu'on fasse, on va pas se refaire étape par étape, on va quand même parler un petit peu globalement de ce qui s'est passé, et notamment, on va pas se mentir, hein, mais de l'écrasante domination de Tadej Pogacar. Un Tour de Catalogne, on l'avait dit depuis le début, il y avait un monde au vu des étapes, hein, je vous fais défiler un petit peu le profil comme ça, où il pouvait tout gagner. Bon, il n'a pas tout gagné, mais il a quand même gagné beaucoup, l'ami Tadej, sur ce Tour de Catalogne.
Ouais, il a gagné quasiment tout ce qu'il pouvait. On va dire que, allez, il y a la première étape là où il n'arrive pas à rattraper Nick Schulz qui lui avait fait le coup d'anticiper et puis d'attaquer un petit peu plus tôt, mais sinon, non. D'une manière générale, Pogacar a juste été monstrueux en montagne notamment. Et puis, ça, tu voyais qu'il prenait aussi du plaisir à attaquer vraiment de très loin, un petit peu. On va voir un petit peu ce que tout le monde en a pensé, mais comme s'il répondait à Vingegaard en disant « Ok, toi, t'as fait le malin sur Tirreno, attaquer de loin, mais regarde, moi je peux faire pareil sur le Tour de Catalogne, ça me fait pas peur. » Donc, c'est un duel à distance, parce que on sait très bien qu'il n'y a que cette personne qui peut rivaliser avec Pogacar sur les courses à étapes. Et non, là, clairement, il a été au-dessus du lot. Et en fait, les infos sur cette course, c'est surtout sur les coureurs qui sont derrière lui au classement général. Et là, il y a plein de trucs hyper intéressants à dire. Donc, on parlera un petit peu plus de ça. Mais non, Pogacar, masterclass, et il vient encore gagner au sprint la dernière étape d'aujourd'hui. Alors qu'on l'a senti, pas en difficulté, mais peut-être moins fringant que dans l'école. Et ça ne l'a pas empêché de retrouver de l'énergie pour battre deux Français au sprint. Voilà.
Tout à fait, malgré tout.
Moins fringant. Vas-y, vas-y.
Là, comment malgré tout, petite à souligner également, avant qu'on parle du classement général, la belle victoire d'Axel Lawrence hier.
Ouais.
Ou avant-hier, ouais, avant-hier. Mmh. Pardon.
Au sprint. Oui, avant-hier, c'était vendredi.
Tout à fait. Oui, tu disais Loïc, excuse-moi.
Bah, je ne sais pas ce qu'on peut appeler moins fringant pour Poggi. C'est ça le problème. C'est
que, bah, il a attendu 30 secondes avant de revenir dans la roue de Stephen Williams. Voilà.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a pas attaqué à 25 bornes.
Juste.
Non, mais il est trop fort. Il sprint, il monte comme il veut. Quoi. C'est impressionnant.
Pogacar. En effet, il a gagné beaucoup, et il a gagné beaucoup au niveau des étapes, et puis quand il gagne pas, il est sur le podium. Tu disais, Adri, que potentiellement, en effet, on pouvait parler un petit peu des gars qu'il y a derrière. Déjà, messieurs, au niveau de l'adversité, est-ce qu'on peut dire que on a parlé un peu du duel à distance avec Vingegaard, là, Adrien, tu as dit que peut-être Pogacar a essayé de répondre. Selon vous, est-ce qu'on avait une adversité comparable à ce que Vingegaard a pu avoir sur Tirreno? Et puis, est-ce qu'il y a des gars qui sont clairement passés à travers et qu'on pouvait attendre sur cette semaine et qu'on n'a pas vu?
Vas-y Loïc, je te laisse répondre.
Je trouve qu'il y avait quand même une très belle adversité. Enfin, il y avait Landa, il y avait Bernal. Moi, je l'ai fait un peu lors du classement, mais il y avait Vlasov, il y avait Henrik Maas. Je trouve qu'il y avait une énorme adversité et ils n'ont rien pu faire, quoi. Ils se prennent... Landa, il se prend 3 minutes 30, 3 minutes 40 sur la semaine. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir Bernal à ce niveau-là, franchement. Par rapport à l'année dernière, je le trouve tellement mieux. Ça fait plaisir à voir. Et je sais pas s'il va être sur le tour cette année, mais je pense que ça fait du bien aussi à Ineos d'avoir quelqu'un qui peut faire quelque chose sur un classement général.
Ouais, moi je pense que l'adversité était à peu près la même que sur Tirreno, hein, si tu regardes le palmarès des gars. Alors voilà, Vingegaard il devance Ayuso et Hindley, qui sont deux excellents coureurs, mais on sait qu'ils sont pas au niveau de Pogacar ou Vingegaard. Et puis après, même si ces dernières saisons, Landa, Bernal, Vlasov, Maas, c'est peut-être un peu moins au top que Ayuso et Hindley avec sa victoire au Giro il y a 2 ans, encore que pour moi il n'y avait pas vraiment de différence par rapport à ça. Il y a tellement une classe, en fait je trouve qu'il y a vraiment une classe d'écart, et même Evenepoel, alors Evenepoel pour moi il se situe un petit peu entre les deux. Le Roglic de cette année à voir, pour l'instant il l'a pas montré, mais de toute façon, dès qu'il y a un des deux coureurs dès qu'il y a Pogacar ou Vingegaard sur une des deux courses, clairement, si l'autre n'est pas là, le reste, ils peuvent pas lutter. Donc, s'il y avait eu le plateau de Tirreno contre Pogacar ou inversement pour Vingegaard avec le plateau de cette semaine sur Tirreno, ça aurait rien changé du tout, selon moi.
Alors messieurs, dans le chat, on te rejoint Loïc concernant Landa. On nous dit, Mikel Landa, lieutenant pour Remco et pour Poggi, attention de ne pas en faire trop sur 3 semaines, ça reste différent. En effet, Landa, pour moi, belle surprise. Alors oui, il finit à 3,40 parce que aujourd'hui, il a clairement plus les cannes pour aller gagner, si du coup Poggi n'avait pas été là, c'est lui qui remportait le Tour de Catalogne, mais belle surprise pour moi, Mikel Landa, je trouve qu'il surfe sur sa fin de bonne saison l'an passé, et en effet, ça risque d'être un bel atout pour Remco, qu'on pensait plutôt esselé, mais si on a un Landa à ce niveau-là, voire peut-être encore mieux sur le Tour de France, il sera bien accompagné, l'ami Remco. Moi, j'étais agréablement surpris, je pensais pas le voir à ce niveau-là, et notamment devant des mecs comme Vlasov.
Ouais, et puis il était pas, moi j'avais pas trouvé bon du tout sur la quand il a repris là en Algarve la course. Ce qui était différent, c'est qu'il était équipier pour Evenepoel, donc il avait fait le taf plus. Il n'était pas dans le même rôle, donc ça n'empêche que même un Landa équipier, quand il était équipier à la Ineos, il finissait pas 15e du général non plus. Donc moi, je m'étais dit, bon, on va voir. J'ai été déçu de sa reprise, mais en tout cas, là, il confirme qu'il est bien au niveau. Et c'était clairement cette semaine, hein, on l'a vu sur toutes les arrivées, le meilleur du reste du monde, on va dire.
Le meilleur des humains, comme dirait Ayuso.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un petit peu dans ce délire-là. Donc, non, ça, c'est tout bon, surtout pour Evenepoel qui pourra s'appuyer sur lui. Je pense, voilà, s'il y a des jours où il est un peu moins bien pour l'accompagner, je pense pas forcément que ce soit l'équipe de Remco qui mette le tempo sur le tour, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Mais en tout cas, c'est toujours bon d'avoir un gars comme ça qui a à la fois l'expérience et puis qui a encore les cannes pour aller loin en montagne. Voilà. Après, on sait que Landa, c'est aussi, des fois, il va nous sortir des grosses, grosses perfs, et puis des fois, on l'attend sur une course, il est pas là. Mais son rôle, enfin voilà, sur son rôle d'équipier, il y a quand même un peu moins de pression. On reparlera peut-être de Sepkus tout à l'heure, mais voilà. Donc non, ça c'est du tout bon pour la Soudal Quickstep et pour Remco.
Bah oui, mais enfin, moi je voulais parler de la Jumbo, enfin la Visma, pardon. À un moment, mais c'est, enfin, Kuss, il a fait un, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, de ce tour de Catalogne de Kuss, mais même de la Jumbo, la Visma en général. Moi j'ai été vachement déçu. Par rapport à Tirreno, c'était le jour et la nuit. Bon, il y avait pas Vingy, mais c'était vraiment, moi je me suis dit, à un moment, c'est que ce qui se fait lâcher, c'est ses équipiers qui le ramènent. J'ai l'impression de le voir le jour et la nuit alors qu'il était tellement en forme l'année dernière. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Pour moi, la vraie déception, c'est plus Hugues que on sait maintenant que c'est un vieux de la vieille. Pas tout à fait encore, et il était un peu mieux quand même sur le tour d'Algarve, mais je sais pas, j'ai quand même l'impression que voilà, il va mettre son temps à monter en régime, c'est pas forcément là qu'on l'attend au top du top, et ça m'inquiète pas. On sait que Kuss, en plus, c'est quand même vraiment le genre de coureur qu'on peut pas voir avant un certain moment, et voilà. Bon, c'est clair qu'on aurait préféré le voir à l'avant, surtout qu'il est peut-être potentiellement leader de grand tour pour la Jumbo cette année. Par contre, en effet, j'attendais un peu plus de Canoche de Brooks, et là je suis un peu déçu parce que je l'ai trouvé vraiment dans la difficulté. Alors dans le chat, on nous dit qu'il y a peut-être eu un souci parce qu'il est DNF aujourd'hui, ou sinon peut-être un problème de récupération après Tirreno. Ouais, peut-être qu'il a un peu trop forcé depuis le début de saison, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que pour moi, ceux qui devaient amener une belle adversité à Pogacar, et notamment je pense à Sepkus qu'on avait vu pendant les Strade Bianche essayer un petit peu de résister à son attaque dans un premier temps ou autre, c'était Jumbo parce que voilà, j'avais envie de voir ce que Hugues de Brooks en tant que co-leader pouvait faire sur une course comme ça, et puis voir quel était le niveau de Kuss, même si j'en avais pas des espoirs de dingue. C'est sûr qu'on les a pas vus, les Jumbo, cette semaine. On peut pas les mettre dans ceux qui ont réussi ce tour de Catalogne. Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment là qu'on les attend aujourd'hui? C'est vrai qu'avec le départ de Roglic, ils perdent un gars qui est capable d'aller s'imposer sur ce genre de course-là. Et les autres sont peut-être pas encore prêts à assumer. Enfin, à part Vingegaard, on se rend compte que potentiellement, a quand même vu sur Paris-Nice que ça pouvait bien fonctionner, mais peut-être qu'ils se cherchent justement qui vont être les gars capables d'assurer sur les courses d'un jour et prendre le relais pour aller remporter. Là, ils ont testé Hugues de Brooks et Kuss, on a vu que ça avait floppé, donc à voir si c'est un réel enseignement pour la suite ou si c'est juste une contre-performance cette semaine.
Moi par rapport au Visma, je pense surtout que pour le tour, ça sera tout pour Vingegaard, et que
ouais, c'est sûr,
et que de toute façon, que ce soit Kuss ou alors je sais pas si Hugues de Brooks c'est déjà, non, c'est, il va faire le Giro, hein. Mais que Kuss, de toute façon, il a dit, je crois avoir lu ça dans une interview, que il voulait plus jamais être dans le rôle qu'il avait été sur la Vuelta l'année dernière et être leader. Et je pense que clairement, Kuss, c'est un équipier. Alors, il va peut-être aller gagner de belles courses sur ces prochaines années, mais il faut pas se fier à sa victoire de la Vuelta pour se dire du coup, il aura plus sa chance ou ça va plus être un leader. Non, à mon avis, pas du tout. que ce faut pas le voir comme ça. C'était déjà avant sa victoire à la Vuelta, hein, il disait que pour lui jouer un général, c'était pas du tout qu'il avait pas le mental en fait pour faire ça. Et puis que voilà, il était équipier et comme c'est un excellent grimpeur, ça fait des merveilles dans une équipe comme la Visma avec un leader aussi bon que Vingegaard. Mais après oui, c'est donc on sait que de toute façon, même s'il était à la ramasse cette semaine, il fera péter tout le monde en juillet, donc voilà, là-dessus pas de problème. Mais plus sérieusement, c'est un peu plus embêtant pour Hüttebrück. Je te rejoins là-dessus. J'ai vu aussi qu'il avait abandonné aujourd'hui, mais il était à la rue toute la semaine par rapport à ce qu'il a montré il y a 15 jours en Italie. C'est un peu surprenant. Je sais pas s'il y a eu un souci pour lui, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de se rassurer avant d'avoir. Sur le Giro, c'est quand même pas sûr qu'il ait non plus un objectif de classement général. Apparemment, il ira surtout pour viser les étapes, et c'est peut-être un rôle qui lui conviendra le mieux pour s'enlever aussi un petit peu de pression. Mais bon, à voir. Là, faut vraiment bien qu'il récupère. J'ai pas vu de course à son programme avant le Giro pour le moment.
Oui, il y en a pas, annoncé.
C'est vrai qu'il a bien enchaîné. C'était peut-être aussi une stratégie de la Visma de lui faire faire deux grosses semaines de course en trois semaines, et puis après là de prendre à partir de ce soir une bonne récupération pour repartir sur un nouveau cycle d'entraînement en vue du Giro. Donc voilà, et comme toujours, hein, les vérités des courses d'une semaine des fois sont pas celles sur trois semaines. Donc petit signal d'alarme, mais voilà, il est encore jeune, il a encore beaucoup à apprendre, et notamment peut-être dans la gestion aussi de ces enchaînements de courses. Donc faut pas s'alarmer pour lui.
Ouais, il est jeune, mais il faut aussi. J'espère qu'il va pas trop avoir la pression avec tout ce qu'il y a eu cet hiver là, avec ces histoires de contrat de la part de la presse belge ou néerlandaise. Commence pas, il est tellement jeune, il a 21 ans, 22 ans, je sais plus exactement, mais j'espère que ça va pas trop lui monter à la tête et qu'il est bien entouré, parce que je pense que mentalement, il doit avoir un truc, une pression de dingue avec tout ce qui s'est passé et un peu, je sais pas comment ça a été géré cette histoire de contrat, mais je trouve que ça a été un peu le sketch de cet hiver, quoi.
Ouais, ouais. Puis après Hüttebrück, c'est quand même un gars, ça fait 3 ans qu'on nous l'annonce comme un futur crack. Donc il y aurait pu avoir justement beaucoup de pression sur lui par rapport à ça, et je trouve que sa carrière pour le moment, elle est plutôt bien gérée, parce que il n'y a pas eu non plus de trucs en se disant en gros, quand la Bora l'a fait signer, on savait déjà qu'en 2022, donc avant, que c'était un talent pur, mais ils n'ont pas trop fait n'importe quoi avec lui, je trouve. Hein, il s'est encore aligné sur des courses de seconde zone, il est allé gagner le Tour de l'Avenir. Vraiment, en 2023, ils ont commencé à le mettre sur des courses plus importantes pour que petit à petit, il se fasse... je trouve que dans sa gestion de carrière, c'est plutôt correct. Je pense pas que la Visma fasse non plus n'importe quoi par rapport à ça. Et il doit être habitué aussi à cette petite pression. Donc, pour moi, je pense que c'est géré plutôt intelligemment. Il a une approche hyper professionnelle. Donc, ça fait forcément partie de l'approche de la course et de sa carrière qu'il a. Donc, moi, je suis pas trop inquiet là-dessus.
Oui, c'est trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme, mais c'est sûr qu'au vu des déclarations qu'il avait pu nous faire sur son équipe l'an passé, et son manque de professionnalisme notamment, et son envie de rejoindre Visma, etc., etc., moi je pense que c'est quand même pas anodin qu'il ait mis en leader. Enfin, alors, ils emmènent des sprinters sur le Giro, il y a Van Aert. Ben voilà, ce sera peut-être pas tout pour le classement général du Hüttebrück, bien au contraire. Mais malgré tout, il y a quand même des gars dans l'équipe. Enfin, je pense ne serait-ce qu'à Jorgensen, j'en avais un peu parlé sur le live débrief de Paris-Nice. Je pense que c'est des gars cette année qui vont être en fait en balance pour ces places-là, de genre qui sera leader sur cette course d'une semaine et tout. Ben, Jorgensen, sur Paris-Nice, il a montré qu'il avait les épaules et qu'il pouvait. Hüttebrück, c'est plus jeune. Mais je le sens un peu. Alors ouais, je sais pas si c'est ce changement d'équipe ou autre cet hiver qui l'a un peu. Ben voilà, peut-être que c'est le premier accroc justement Adrien dans cette carrière qui jusqu'à maintenant était plutôt extrêmement bien géré. Et oui, trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme ou autre. Mais je pense que quand ils se sont dit bon, on va le mettre, voilà, 100 personnes dans les pattes sur le Giro, etc., etc. Peut-être c'est parce qu'ils l'espéraient là, en tout cas sur ce début de saison, vraiment capable de produire un peu mieux. Et c'est vrai qu'il a du retard à l'allumage pour le moment. Et on espère malgré tout que sur le Giro, même si on sait que. Enfin, comme on en parlait fin de l'année dernière ou quand on a vu son programme cet hiver, on était là, waouh, il est sur le Giro, attendez, est-ce qu'il va pas pouvoir faire un truc et tout? Bon, pour le moment, là, il nous enjaille pas, quoi, clairement. Même au contraire, on aurait plutôt des réticences, plus que vraiment se dire, waouh, ils ont entre leurs mains un gros crack qui, dès cette année, va faire des folies. On nous dit dans le chat, c'est Titien qui nous dit Martinez, super à Wish de Brooks. C'est vrai que sur ce début de saison, il l'est. Après, voilà, Cocorico, on
Il faut
connaît.
parler des Français.
D'ailleurs, Titien, j'ai employé le mot crack pour parler d'un coureur, donc clairement, je suis en train de prendre ton vocabulaire là, ça va plus du tout.
Tu deviens un Titien
Contaminé.
addict. On peut en profiter du coup pour parler de Martinez. On en avait parlé potentiellement. Est-ce qu'il pouvait viser un top 5? Est-ce que c'était possible pour lui? Finalement, il finit 7e du général, premier du classement des jeunes. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette semaine pour Lenny Martinez? Est-ce qu'on est déçu ou est-ce que ça va? Moi, je peux vous donner mon avis. Je l'aurais quand même bien vu dans le top 5, même s'il y avait des noms qui étaient présents. Mais je pense qu'il apprend et que voilà, le jour où il. Enfin voilà, il est qu'à une seconde sur le classement général du top 5, donc il est vraiment pas loin. Et je pense qu'il a appris en effet cette semaine que potentiellement. Il y a aussi des fois où ben là, on pouvait avoir des jours sans ou autre, et j'espère que au niveau de l'expérience, ça va lui apprendre peut-être à avoir à peine une meilleure gestion, ou mieux se comprendre, mieux écouter son corps, etc., etc. Et potentiellement, ben voilà, je trouve que ça va bien dans son apprentissage. C'est trop cool qu'il récupère le maillot blanc. On nous parlait, est-ce que c'est l'éclosion de Tibéri, oui, c'est ça, pardon, Tibéri, le tueur de chats, ou pas. On pourra en parler aussi rapidement, qui finit 30 secondes derrière Lenny Martinez et également derrière au classement général d'une place, puisqu'il est 8e. Moi, j'ai mine de rien plutôt apprécié Lenny Martinez. Je le trouve assez bon dans sa gestion. Voilà, faut le temps qu'il progresse. Là, il est en train d'apprendre et son apprentissage se fait pas trop mal. Ce qui rejoindra Tipperary à la Bahreïn l'année prochaine. On en débattra plus en détail peut-être plus tard. À vous, messieurs.
C'est la question que tout le monde se pose là. C'est
Oui.
est-ce qu'il va rester à la Groupama ou pas? C'est bien ça le problème. Et les rumeurs, elles vont pas dans le bon sens pour la Groupama. Moi, je trouve qu'il a fait une très bonne semaine. Ça suit. Enfin, il est en train de suivre une belle courbe d'apprentissage. Il visait un top 10. Il est dans le top 10. Il suit ses objectifs. Moi, je trouve que ça a été une bonne gestion de course sur une semaine. Il a, comme tu disais, il a très bien appris. Moi, je l'ai trouvé très très bon. Après, en parlant de la France, je voulais aussi parler de, enfin, mettre ce petit sujet-là aussi. C'était le début de saison. Enfin, c'est comme Guillaume Martin fait troisième aujourd'hui. Je me suis dit, il faut parler aussi du début de saison catastrophique de la Cofidis. Mais ça, je pense qu'on peut en parler un peu plus tard. Et sur Tibéri, moi, je sais pas trop quoi dire. Le personnage me dérange un peu, mais je vais laisser Adrien en parler.
Ouais, je pense que c'est plus intéressant de parler de Martinez. Voilà,
Bah,
on
t'as
va
pas de
voir s'ils
chat,
seront.
Adrien, non? C'est bon.
On va voir s'ils seront. Ouais, c'est vrai que je crains rien. Mais on verra s'ils seront coéquipiers l'année prochaine. Mais non, moi je trouve que c'est très bien ce que Martinez a fait. Pour moi, il a sa place. Hein. Il est à sa place. C'est encore le. Enfin, il est à une seconde de Mas, à quelques secondes de Vlasov. Et Bernal est pas hyper loin. Il a déjà devancé Bernal sur ce début de saison. Donc c'est un très très bon début de saison de Martinez. Et là, je pense qu'il a beaucoup appris sur cette course où il y a eu un enchaînement d'étapes difficiles. Je pense que là-dessus, il a encore une caisse à avoir et à développer hein, par rapport à des coureurs qui ont l'habitude de ces enchaînements de grosses étapes en ayant accumulé les grands tours au fil des années. Donc pour moi, il est à sa place, c'est ce qu'il faut faire. Après là, j'espère juste que la FDJ va le laisser un petit peu souffler. Moi, j'ai un peu peur qu'il le crame là. Je vois qu'il a encore annoncé sur les classiques Grand Besançon, Tour du Jura, Tour du Doubs au mois d'avril. Après, il va enchaîner avec le retour de Romandie. Je pense qu'il faut quand même bien gérer ce cas-là. Donc ouais, non, c'est en bonne voie. C'est son début de carrière. Pour l'instant, tout est très positif. Voilà. Et puis il a une attitude aussi qui est intéressante, qui est assez. On voit que quand il peut, il est offensif. Donc ça montre aussi un état d'esprit très très intéressant pour aller chercher des grandes victoires dans le futur. Après, avoir sous quel maillot. Voilà.
Et à noter quand même deux courses par étape pour Lenny Martinez depuis le début de saison, deux fois meilleur jeune. Hein. Au Grand Camino, Volta, Ciclista Catalogne.
Ouais, carrément.
C'est propre. Ouais, non, mais c'est super.
Au Grand Camino, il est devant Bernal. Bernal,
on va en parler. Tu peux y aller, Adri, d'ailleurs, hein, si tu veux enchaîner sur Bernal. Je pense que ce sera.
Ouais, ouais, ouais.
Point.
C'est. Voilà. Transition toute trouvée. Voilà, n'est-ce pas? Bernal, ça fait super plaisir. Il a été. En fait, il était avec tout le monde cette semaine. Voilà, dans les. Le gros peloton, là même derrière Landa, avec tous les favoris. Et hier, il nous sort vraiment une super étape, une super attaque là, dans la descente où c'était hyper bien senti tactiquement. Et puis, il a été très costaud aussi hein, dans la dernière montée. Il va même battre Landa au sprint pour la deuxième place. Et c'est un petit peu dans la lignée de ce qu'on disait après Paris-Nice. Pour moi, c'est vraiment pareil dans son début de saison. Là, on retrouve pas encore le Bernal vainqueur de Grand Tour, mais je pense qu'on s'en rapproche beaucoup. Et même à voir si finalement il va vraiment faire que la Vuelta et si Ineos va pas vouloir le mettre sur une autre course. Je pense que ça pourra dépendre de choses en interne. Mais
un truc en juillet, par exemple.
Ouais, par exemple. Ouais. On sait que Bernal, il devait faire son premier grand tour à la Vuelta. Genre, je sais plus en quelle année c'était. Et puis finalement, je crois que c'était en 2018. Oui, parce que c'est après, il gagne en 2019. En 2018. Et puis finalement, il y a un blessé dans l'équipe Ineos, je sais plus qui c'est. Et hop, il commence direct sur le Tour de France où il épaule Froome et Geraint Thomas. C'était l'année de la victoire de Thomas en tant qu'équipier pour faire ses débuts, donc il n'était pas prévu et ça se trouve s'il y a un petit forfait ou autre ou moyen de le mettre plus tôt, ce serait pas surprenant de le voir sur un autre grand tour que la Vuelta. Et ouais, très très convaincant à sa place de on sait que c'est le Tour de Catalogne, c'est la course d'une semaine pour les grimpeurs et il a répondu parfaitement présent, même si c'est vraiment son étape de samedi qui change tout. Avant, il n'était pas, je pense pas qu'il il n'était pas forcément plus beaucoup plus fort que le reste des leaders, mais il a su être mieux courir, être plus malin et on sait que c'est aussi une de ses qualités à Bernal, donc en tout cas ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là.
Loïc, tu veux ajouter un petit mot sur Bernal ou on enchaîne?
Hormis que ça me fait énormément plaisir de le voir comme ça, le voir attaquant dans les descentes, et pas que dans les descentes d'ailleurs. Mais j'ai très très envie de le voir, j'aimerais beaucoup le voir sur le tour aussi, parce que je pense que ça veut vraiment faire du bien à Ineos d'avoir quelqu'un qui est fort sur les classements généraux, parce que je trouve qu'en ce moment c'était un peu la grande spécialité de l'équipe quand même, et ils sont un peu live en ce moment quoi.
Malo qui nous demande est-ce que Bernal n'a pas déjà retrouvé son niveau de 2019, il a gagné le Tour, mais c'était une année très ouverte, le niveau pour gagner le Tour en ce moment est beaucoup plus haut. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le niveau est beaucoup plus haut, par contre non, je pense que malgré tout au Tour 2019 il avait un niveau supérieur à ce qu'il a affiché, ce qu'il a affiché aujourd'hui, il n'a pas retrouvé ses cannes, et même enchaînant, pour moi son niveau de 2019 il est au moins le même niveau que celui qu'il avait l'année où il gagne le Giro, et clairement là on voit bien que il n'est pas largement devant des mecs qu'il a pu battre. Alors, pas les mêmes courses, pas machin, pas truc, tout ça, mais non. Pour moi, il n'a pas encore repris le niveau. Ce n'est pas le prime Bernal qu'on a pour le moment. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on avait peur, avant cette saison, en tout cas moi personnellement, de plus revoir le prime Bernal. Après ce début de saison, je me dis, la porte pour revoir Egan Bernal au son niveau de 2019 et de l'année où il remporte le Giro. Et là, donc clairement, ouais, je pense qu'on pourra revoir le tout meilleur d'Egan Bernal, voire peut-être encore plus que ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant.
On va voir ce qu'il peut faire contre les aliens.
Ouais, c'est ça. A-t-il la solution ? Alors, messieurs, vous êtes. On va enchaîner sur Grand Vemel Game et le 3 Saxo classique. Mais juste avant, messieurs, dames, vous êtes une petite cinquantaine déjà à nous suivre. C'est magnifique, on est refait. Les niveaux des lives fonctionnent super bien grâce à vous depuis le début de l'année. Pensez à mettre un petit like pour référencer encore mieux le live là actuellement en direct. Comme ça, voilà, tout le monde le verra et on sera plus nombreux à parler de vélo et ce sera incroyable. Et pareil, je vous rappelle qu'on est toujours en quête de nous, de nos, pardon, 2000 abonnés. On est à 1950, on est vraiment pas loin. Donc tout pareil, si vous nous découvrez ce soir ou en replay sur ce live et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez faire tourner la chaîne à un maximum de monde pour qu'on puisse passer cette petite barrière des 2000 qui nous fera grandement plaisir, n'hésitez pas. J'en profite également, petit point réclame pour les réseaux sociaux et notamment la rédac Matt et Simon qui nous font des articles de dingue. Et cette semaine, on a eu des pépites comme d'habitude avec le magnifique professeur Fringal qui a rendu ses bulletins pour la première partie de l'année. Assez excellent. Et puis, bien évidemment, la série Anatomie d'une chute qui continue avec le cyclisme balte cette semaine qui était à l'honneur ou pas à l'honneur. Enfin, voilà, ça, vous irez voir les articles. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram et Facebook pour voir le magnifique travail qui est fait par nos collègues de la rédac par écrit. Messieurs, dames, le 3 Saxo Classique 2024, qu'est-ce qu'on en a pensé ? À ce moment-là, on se disait Mathieu Van Der Poel est vraiment un monstre, une machine. Personne ne pourra rivaliser avec lui sur le Tour des Flandres. Et puis aujourd'hui, il y a eu Grand Vemel Game. Est-ce qu'on pense toujours pareil ? Est-ce qu'on pense pas pareil ? On commence par le 3, messieurs, et on enchaîne. Mathieu Van Der Poel qui s'impose devant Jasper Philipsen, 1 minute 30 d'écart derrière Wout Van Aert, Tim Wellens, Matteo Jorgensen. Finalement, les hommes qui étaient censés être à l'avant ont été à l'avant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course ? Quels enseignements vous en tirez, hormis le fait que Wout Van Aert peut aussi chuter en montée ? Voilà, je vous écoute.
Je ne sais pas s'il m'a inquiété, Van Aert, parce qu'on nous a dit, un peu comme moi, trop d'entraînement la semaine dernière, j'ai fait un stage énorme, j'ai jamais fait autant de kilomètres positifs dans ma vie. Il devait être, bon, ça se trouve, il était complètement rincé, c'est vrai, et peut-être que ça a peut-être un peu joué dans sa chute, fatigue, être à bloc. Et on a un petit Mathieu qui est trop fort sur cette course-là. Il part, on l'a plus jamais revu. Mais ce qui m'a, je vais pas utiliser le mot choqué, mais ce que j'ai noté surtout, c'est que Van Aert, il fait même pas le sprint pour la deuxième place. Il est tellement rincé qu'il le fait même pas. Moi, je trouve que le début de saison classique de la Lidl est tout simplement incroyable. Ils sont super forts.
Sur cette course hyper impressionné par Mathieu Van Der Poel qui a mis quelques cacahuètes pour fatiguer tout le monde, et puis quand il a voulu partir dans le Paterberg, il n'y a personne qui a été capable de le suivre. Il avait un placement parfait au pied de ce mont, contrairement à Van Aert, hein. C'est aussi ce qui fait que Van Aert il tombe parce que dans le virage, il voit qu'il est pas avant le virage, il voit qu'il est pas dans la route Van Der Poel. Il sait que Van Der Poel va attaquer. Il essaie de remonter et puis il gère mal le coup. Il tombe, hein, c'est entièrement de sa faute. Et à partir de là, Van Der Poel a mis une attaque fulgurante, comme d'habitude. Et franchement, ce duel après, quand dans le vieux Quarmont, Jorgensen fait péter le groupe de chasse et que Van Aert part sur le sommet. Vraiment, j'ai adoré ce duel à distance. On les a beaucoup vus dans leur carrière rouler ensemble et l'un contre l'autre. Mais à deux ou à trois, ou voire
voilà, se neutraliser totalement dans un groupe. Et là, c'était ce duel où on voit que Van Aert, qui venait d'attaquer, avait encore du jus. Il reprenait. On se dit, ah là là, moi je me suis même dit en regardant la course un moment, mais est-ce que Van Der Poel, finalement, il n'aurait pas intérêt à l'attendre, parce que derrière, on ne sait pas. Puis bon, après, l'idée ne m'a pas traversé l'esprit longtemps, parce que dès que ça remontait un petit peu, Van Der Poel en a remis une couche, et on a vu après derrière Van Aert complètement exploser. Voilà, et Van Der Poel faire un solo. Après, en attaquant à 40 bornes de l'arrivée, ça lui fait un effort d'une petite heure. Une heure à fond, Van Der Poel, il sait faire, et il l'a encore beaucoup fait cet hiver sur les cyclocross, chose que Van Aert a fait beaucoup moins. Donc, Van Der Poel était aussi sûrement plus prêt à ce genre d'effort, en tout cas vendredi dernier. Donc, à voir ensuite pour le round 2. Mais Van Aert a changé totalement son approche par rapport aux années précédentes, en misant sur l'altitude, sur le volume, sur le dénivelé, contrairement à miser sur l'intensité, les courses belges et tout ça. Donc, après, son objectif, ça reste Tour des Flandres et Paris-Roubaix. C'était pas le 3. Je pense qu'il va être très très fort au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix. Après, le problème pour lui, c'est qu'en face, il y aura quelqu'un. On ne sait pas, on pense qu'il va être très très fort, c'est on sait qu'il va être très très fort. Et Van Der Poel, là, clairement, on sait que le Tour de les Flandres lui correspond parfaitement. Et il faudra arriver à rester dans sa roue quand il attaquera encore et encore. Et clairement, vu ce qu'il a montré sur le 3, si jamais il prend quelques mètres d'avance, ça va être très très dur de le rattraper.
Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Adri. En plus, je pourrais pas être là pour la preview du round, donc sans spoiler, je peux vous donner un peu mon avis. Deux choses. La première, c'est que, en effet, moi, je crois assez à ce que Van Aert a fait cette année. Il a changé du tout au tout sa prépa pour les monuments qui arrivent là. Et l'an passé, on s'était dit genre, waouh, il a réussi à tenir, incroyable, il règle les deux autres au sprint, peut-être que potentiellement ça veut dire que cette année le round c'est dans sa poche et tout, et puis finalement bah pas du tout. Et là voilà, il fait autrement. Il y a ce fameux mano à mano là où il essaye de revenir sur Van Der Poel, finalement il n'y arrive pas. Peut-être qu'il n'avait pas les cannes, peut-être qu'à un moment il s'est aussi dit bon bah je vais pas y arriver, puis de toute façon si je reviens dans sa roue là dès que ça va remonter, c'est finito pipo. Donc peut-être qu'il y a eu aussi de ça, et peut-être que simplement il n'avait pas les cannes ce jour-là. Mais en attendant, comme dit et comme c'est dit dans le chat aussi, aujourd'hui Van Der Poel est au-dessus. Enfin, vendredi Van Der Poel était au-dessus, mais c'est pas le Tour des Flandres. C'est le 3. Et puis, deuxième chose, c'est que, et ça permet de faire le parallèle avec Gant potentiellement, c'est qu'on a vu qu'aujourd'hui, Van Der Poel était quand même vachement moins aérien que ce qu'on a pu revoir vendredi. Alors oui, il a fait des efforts de dingue et tout, on est d'accord.
Il s'est mis dans le cornet vendredi.
Non, mais il n'y a pas de souci, mais il y a des mecs qui étaient là vendredi aussi. Et voilà. Et deuxième chose, c'est que aujourd'hui, alors, en fait, c'est un peu biaisé, parce que j'avais envie de dire Mats Pedersen a montré comment battre Mathieu Van Der Poel en 1 contre 1 sur une arrivée, et en même temps la première fois où Van Der Poel bat Van Aert, c'est à peu près le même type de sprint qui se passe. Ils partent de loin tous les deux comme des veaux, on pourrait se dire que c'est l'avantage de Van Aert, et malgré tout c'est Van Der Poel qui le gagne. Donc
alors si je peux me permettre, c'est pas tout à fait le même sprint, parce qu'ils partent presque arrêtés, Van Aert et Van Der Poel.
Tandis oui, que là, mais Pedersen, c'est un sprint long et tout. Ouais, ok, il se lance.
Mais Pedersen, il a eu l'intelligence, on reparlera de Gambevel Game tout à l'heure, mais juste là, il a eu l'intelligence de pas ralentir devant. Justement, ouais, et de maintenir une vitesse élevée à l'approche du sprint pour que Van Der Poel ne puisse pas lui mettre 1 ou 2 mètres sur son explosivité, comme il avait fait avant Nart sur le championnat du monde cyclocross. Et donc, du coup, c'est là où je trouve que Pedersen a justement, comme tu disais, montré comment battre Van Der Poel sur un sprint à deux. Encore faut-il en avoir les capacités physiques, mais en tout cas tactiquement, clairement, je pense que Van Aert, s'il avait fait ça quelques fois, il aurait gagné un peu plus souvent contre Van Der Poel.
Loïc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le 3 ?
Non, ça me paraît pas mal ce qu'on a dit. Ça va.
Pour faire le lien entre les deux, on a parlé de Visma qui semblait imbattable sur ces classiques flandriennes. On a vu deux équipes qui tournaient, qui tournait particulièrement bien et qui sera peut-être l'équipe qui peut faire trembler Van Der Poel. C'est la Lidl Trek. qui met un homme en deuxième position sur le 3 et qui aujourd'hui a fait une magnifique course utilisant parfaitement tous ses hommes pour mettre le feu aux poudres, rendre la course difficile, forcer aussi Mathieu Van Der Poel à faire des efforts, laisser d'autres courir au chaud et peut-être montrer, comme nous le dit Titien dans les commentaires, comment battre Mathieu Van Der Poel sur le round 2. Aujourd'hui, c'est Mats Pedersen qui s'impose au sprint après une course rondement menée par la Lidl Trek. Finalement, il vient bien parachever le travail collectif. Comme dit, Mathieu Van Der Poel un peu moins en jambes aujourd'hui, même s'il en a encore fait beaucoup et qu'il a été ultra offensif. Mais on s'est rendu compte que, bah, malgré tout, en tout cas, il montrait lui des signes de faiblesse après des efforts surhumains. Donc, donc voilà.
Il y a des failles après des contre-la-montre de 45
bornes. Voilà, c'est ça. Visiblement, quand on fait une échappée de dingue, on n'est pas forcément en forme deux jours après. Voilà, ça peut arriver, même si on paraît, même si on paraît super fort. Qu'avez-vous pensé de cette course ? À un moment, on a vraiment cru que potentiellement ça allait se terminer au sprint, un sprint groupé avec le peloton. Et c'est bien Mats Pedersen qui, au bout de ce mano à mano qu'on a un petit peu décrypté avant et ce sprint lancé à 300 mètres vient s'imposer. Finalement, Mats Pedersen, il a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire que lui, même quand il y a un peloton groupé, il demande à son poisson pilote de le lâcher à 300 mètres de la ligne. Là, il s'est dit, vas-y, je vais le faire tout seul, ça fera l'affaire. Et puis, il va gagner. Je trouve que c'est bien aussi pour Mats Pedersen d'aller remporter une belle classique comme ça. Alors, on sait qu'il a déjà eu de très belles victoires dans sa carrière, il en avait déjà gagné un notamment. Mais là, ouais, c'est cool. C'est cool de le voir aller s'imposer face à Mathieu Van Der Poel et peut-être que ça va lui donner des idées et de la confiance pour la semaine prochaine.
Ouais, c'est un super début de saison. Vas-y, Adri.
Non, ouais, je disais, c'est carrément cool de voir Pedersen gagner. On sait qu'il... Bah, que c'est un chasseur de classiques qui en attrape pas beaucoup. Il est aussi bien habitué aux places d'honneur. Et je trouve qu'on sait qu'il est de plus en plus fort chaque année, mais des fois, il n'arrive pas vraiment à le concrétiser comme il voudrait. Et là, il a vraiment, lui et son équipe, hein, quand ils sont quand même partis avec Jonathan Milan dans l'échappée assez, bah voilà, avec Van Der Poel, ils ont osé en anticiper. Ils auraient aussi pu se... Bah, en fait, l'avantage, c'est que sur Grand Vevel Game, tu sais que Pedersen, il sera pas le plus rapide du peloton parce que la course, elle est pas assez dure pour faire sauter des gars comme Philipsen, comme Merlier. Il y a même Groenewegen, quoi, qui fait dans le top 10. Donc, on n'est pas non plus sur la Flandrienne la plus exigeante du calendrier. Mais non, ça fait plaisir de voir Pedersen gagner, mais surtout la façon dont ça s'est couru, il était hyper fort. On a vu Van Der Poel vraiment à la limite, hein, quand même, sur le dernier passage du Mont Kemmel. Alors pas au point de sauter, hein, mais quand même, il était pas facile dans la roue à attendre que ça se passe.
Il avait la même tronche que dans la roue de Pogacar l'année dernière, pas quand il se faisait lâcher tout à la fin, mais avant, quoi.
Et comme je crois que c'est l'année où il bat Van Aert au sprint, où Van Aert, pareil, est devant dans le Paterberg, et tu vois que Van Der Poel, il est... Non, c'est justement dans la route Pogacar, ça, t'as raison, j'ai confondu. Mais ouais, en tout cas, Pedersen, super, super bien joué, et puis quand ils sortent, ils ont quand même... Ils avaient quand même beaucoup d'avance au sommet, le temps que le peloton se réorganise et tout ça. Ils ont peut-être pas. Je pense que le peloton aurait pu rentrer, mais à mon avis, ils n'ont pas assez bien.
Moi, au début,
joué
je me demandais.
Coup, si... Je pense qu'ils étaient cramés.
Moi, au début, je me demandais s'ils allaient, enfin, si Mathieu, il allait rouler parce que il a quand même le meilleur sprinter du monde derrière dans le peloton. Donc, je me disais, est-ce qu'il va vraiment jouer le jeu avec Pedersen? Vraiment, est-ce qu'il va juste rester dans les pédales? Mais après, quand on a vu très très vite qu'il roulait fort.
Ouais, puis c'est logique. Enfin, moi, j'aurais vu ça super bizarre. Enfin, ça, j'aurais trouvé ça super bizarre que Van Der Poel ne veuille pas relayer alors que ça fait 40 bornes qu'il est dans l'échappée devant, qu'il roule. À quoi ça sert si c'est vraiment que pour neutraliser Pedersen? Et puis, il a perdu le sprint face à Pedersen, mais on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Hein. Si Pedersen ne joue pas aussi bien le coup, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si c'est un sprint, si Van Der Poel, si ça se gère autrement, Van Der Poel, ce n'est pas un patron sprint, donc il aurait pu avoir ses chances.
Van Der Poel, il nous a déjà montré qu'il était, notamment sur le Tour des Flandres, capable de gagner des sprints grâce à son explosivité. Je te rejoins, Adri, c'est vraiment Pedersen qui a super bien manœuvré, parce que même si on sait... que Pedersen en sprint massif est plus un sprinter que Van Der Poel en toute course confondue. On sait aussi que c'est aussi le cas de Van Aert, et c'est pas pour autant que Van Aert règle Mathieu Van Der Poel au sprint tous les 4 matins. Et moi, je pense vraiment que Van Der Poel, dans sa tête, c'était ok, on arrive au sprint, on fait comme d'hab, et je lui mets une cacahuète à 150 mètres et je suis assez explosif. D'ailleurs, on le voit, il le remonte pas parce que, comme tu dis, ça roule vite, mais il y a quand même un moment où, quand il décale, on sent qu'il a une sacrée explosivité, quoi, Van Der Poel.
Oui, mais c'est ça, sauf que c'était Pedersen a eu l'intelligence de lancer assez loin pour pas se faire sauter sur la ligne là-dessus. Et Van Der Poel en duel, il est quand même hyper fort. Hein. Je crois que j'ai vu passer une stat, alors je sais plus s'il avait gagné 80%, ouais, c'est ça, de ses arrivées à deux. Donc même contre des gars plus forts. Donc moi, il n'y avait pas de raison. Hein. Je vois pas pourquoi il se serait relevé. Et au pire, il faisait deuxième. Hein. Donc on sait qu'il ne court pas pour faire deuxième, mais c'est toujours cool. Et je pense qu'avec Pedersen, ils s'entendent plutôt bien. Ils ont eu les deux le même esprit tout le long de cette course. Ils ne se sont pas posés de questions. Ils ont roulé, ils ont collaboré. Je pense qu'ils ont très vite compris qu'ils arriveraient au sprint ensemble. Et puis voilà, après, le plus fort sur le sprint a gagné aujourd'hui. Et puis, tant mieux. Et je ne pense pas que ça dérange Van Der Poel. Et je pense aussi qu'il a vu ça comme faire un enchaînement d'efforts après vendredi et là, faire ça aujourd'hui. Là, maintenant, il va se reposer, récupérer cette semaine pour arriver au top du top dimanche prochain. Donc non, je pense qu'il y avait aussi cette idée-là derrière sa tête.
Mmh. Bah, je pense que moi, j'avais mis Pity dans mon équipe Cycling Fantasy. À un moment, j'y ai cru pendant quelques instants et après, je l'ai vu totalement exploser. Le début de saison, enfin, moi, je voulais souligner son début de saison. Il a été incroyable. Là, depuis le début, il est impressionnant. Il est super fort. Je sais pas jusqu'à quand il est signé chez la Groupama, mais
je crois que c'est une fin de contrat aussi. Hein.
Oh non.
Je crois qu'il y a lui, Grégoire et Martinez sur lesquels il faut s'activer.
Bah oui, bon donc.
Fin de contrat 2024, ouais.
Le message à la Groupama, c'est essayez de regarder au moins un ou deux, s'il vous plaît.
Ouais, c'est ça. C'est clair.
Ça dépend si tu. Non, je... non, rien. J'allais dire, ça dépend si tu veux voir les coureurs gagner ou pas, mais.
Oh, voilà. Oh, le tac. Mais t'en envoies beaucoup aujourd'hui, là.
Non, mais après, on en revient là, mais j'en reparlerai quand on parlera du transfert de Martinez, si c'est le cas.
Dans le chat, on nous demande si Guirmay est décevant. Pour moi, Guirmay, il est à sa place. Hein. Quand il la gagne, il profite aussi de circonstances de course et d'un très mauvais sprint de Christophe Laporte, sans lui enlever le crédit qu'il a l'année où il la gagne. Il finit septième de la course, quatrième pardon, du sprint du peloton, avec devant lui des mecs qui, je pense, sont des meilleurs purs sprinteurs que lui. Ouais, on n'a jamais vu non plus Binyam Girmay capable de lâcher quelqu'un à la pédale dans un mont. Donc c'est plutôt un gars qui s'accroche et qui peut régler un sprint si ça arrive, parce qu'il a une belle pointe de vitesse, mais c'est pas le plus gros des sprinteurs du peloton. Donc non, pas décevant, je dirais, à sa place.
À sa place, pareil. Ouais, je suis d'accord.
Oui.
Voilà.
Oui, oui. Il y avait des bien meilleurs sprinteurs.
Vous voulez parler un petit coup de Martinez, messieurs? Vous voulez encore discuter tranquillement de ce qui nous attend? Ah, d'ailleurs, j'ai pas changé le profil, parce que Grand Vével Game, voilà, c'est celui-là. C'est quand même beaucoup moins difficile que le 3. Vous voulez encore un petit peu parler de ce week-end flandrien et peut-être des enseignements, des pré-enseignements qu'on pourrait avoir avant... parce qu'on va pas parler de la preview tout de suite du Tour des Flandres, preview qui sortira ce début de semaine, bien évidemment. Mais voilà, est-ce qu'il y a... petit truc que vous voulez rajouter comme ça en disant ah tiens lui ou machin. Moi je pense que je vous donne juste mon point de vue, mais peut-être un peu Captain Obvious, mais en tout cas je pensais pas que la Lidl Trek aurait les armes vraiment de jouer plus les troubles faits que la Visma. Je voulais faire un mème d'ailleurs, je le ferai peut-être. Est-ce que vous voyez ce mème de Friends où il y a Joey, ah j'ai oublié le nom de
et Phoebe
qui lui dit faut faire ça. Et ben je voulais faire le même où Phoebe elle, donc on met Visma sur la tête de Joey et Phoebe elle lui dit jouer la course d'équipe et pas tout pour Van Aert. Et Joey il dit jouer la course d'équipe et pas tout pour Van Aert, à la fin il est tout pour Van Aert.
Oui, bah, alors je valide totalement, il faut absolument que tu fasses.
Oui, il faut faire ça.
Voilà, je le sens vraiment comme ça et du coup je me dis putain mais il faut le faire à chaque fois quoi, c'est pas possible.
Excellente.
Non mais on sait en tout cas que pour battre Van Der Poel, de toute façon, il faut une course d'équipe et la Lidl Trek l'a assez bien montré aujourd'hui. Et c'était sur Grand Vélodrome, ça n'a rien à voir comme course. L'adversité sera pas la même sur le Tour des Flandres, mais pour moi, on savait que la Visma avait les armes pour bousculer Van Der Poel. On sait maintenant que la Trek aussi les a. Ils ont quand même 4 coureurs dans les 11 premiers au E3. Et Milan, avec la course qu'il fait, il arrive à faire 3e du sprint du peloton aussi. Ça, c'est assez monstrueux. Ouais. Bon, après, voilà, Jonathan Milan, sur un Tour des Flandres, il va être sûrement un petit peu juste. Mais ça n'empêche qu'il pourra, pourquoi pas, anticiper. On a vu Stuyven hyper costaud sur l'E3. Donc, voilà, c'est, pour moi, c'est vraiment deux collectifs qui ont les capacités. Alors, à voir la Visma, comment ça va se faire, mais Jorgensen hyper costaud. Bon, Laporte, il devait participer aujourd'hui. Il était malade, il me semble.
Oui, bah, c'est donc, son virus, apparemment, sur Milan-San Remo.
De Milan-San Remo, ouais. Voilà.
Ça fait deux, trois jours qu'il récupère. Peut pas.
Il est annoncé sur À travers les Flandres avant le Rondeur. Hein, Donc il était hyper costaud au début de l'année, à voir. Mais en tout cas, il va falloir jouer. On a vu que Van Der Poel était très, très, très fort. Ce sera le plus fort dimanche prochain. Donc pour le battre, il ne va pas falloir rester dans sa roue et puis essayer de le suivre dans le Paterberg, parce que sinon ça va être trop compliqué. On sait qu'en plus, lui, il va attaquer. On a vu que ça ne lui faisait pas peur de partir de loin. Donc, très, très content de voir qu'il y a une autre équipe qui va pouvoir mettre un peu le bazar. Et je pense que voilà, ils ont les capacités de jouer ça intelligemment. Donc voilà un petit peu pour les enseignements de ces deux jours de course. Je pense que Tim Wellens va être très bon aussi. C'est un coureur qui aura moins la pancarte que certains. Je sais pas, on sait que Bettiol un jour a gagné un Tour des Flandres en faisant une attaque comme ça et puis personne ne l'a revu. Ça ferait plaisir de voir Tim Wellens en tout cas faire un truc dans le genre. Je pense qu'il va être costaud. Donc voilà un petit peu mes petits enseignements.
Bah, tout à fait d'accord avec vous, messieurs. Hein. Moi, j'allais retourner un peu vers mon étudiant du conseil de classe des sprinters là, j'ai vraiment j'ai essayé de regarder un peu où était Démare. Il me fait vraiment très très peur, donc je suis assez inquiet pour le pas le jeune étudiant Démare, mais j'espère qu'il va vraiment pouvoir se relever un peu. Je pense que chez RK on manque d'hommes, mais bon, après chez les gros je vous suis totalement quoi.
En tout cas, dans le chat, il y a Roi du Vélo qui nous dit Milan peut mettre le merdier sur les deux prochains monuments. Et bah écoutez, je suis assez content parce que pour revenir sur le conseil de classe des sprinteurs, j'avais mis ça sur la table en disant je comprends pas comment on ne voit pas ce mec dans les Flandriennes. Clairement, pour moi, il a tout pour, alors sans dire qu'il va aller en gagner une tout de suite, hein, mais au moins qu'on le voit à l'avant ou qu'on se dise voilà, c'est un gars qui peut. Et je pense plutôt comme toi, Adri, que clairement, pour moi, Milan, si on veut qu'il ait un impact sur le Tour des Flandres qui est une course, je pense, trop dure pour lui, faut qu'il parte dans l'échappée. Faut qu'il aille devant, qu'il tienne le plus longtemps possible, et on sait jamais, voilà, sur un coup de dé ou machin ou truc, être un peu le poil à gratter. Et bon, Paris-Roubaix, c'est dans un moment, mais en tout cas, il montre. Moi, je pense que Paris-Roubaix, c'est clairement un des monuments qui lui ira mieux que le Tour des Flandres. Et je suis content de voir que Milan, au-delà d'être excellent sprinter, ce dont on se doutait un peu, mais il a confirmé. On a déjà vu des mecs gagner des étapes une année, puis pas les voir à gagner pendant plusieurs années derrière, ça arrive, mais qu'il est aussi capable de faire autre chose. Et je suis hyper content de le voir jouer le jeu d'équipe avec la Lidl Trek, donc ouais, Vous savez que je l'aime bien, Milan, voilà. Donc, voilà. Je suis pas des chats.
Tout, ça, de plus en plus à l'apprécier. Mais non, mais il fait. Est-ce qu'on va pouvoir parler d'Armada Lidl au bout d'un moment? Mais je pense que ça se. Bon, Paris-Roubaix, c'est quand même beaucoup plus. Faut avoir de la chance dans la course, mais. Oui, moi je te rejoins là-dessus, c'est que c'est un profit qui lui va parfaitement. S'il est bien entouré, je pense qu'il peut vraiment avoir un très très gros impact sur la course.
Ouais, puis ils vont anticiper, c'est sûr de toute façon. Autant la Visma, on. Enfin, je sais pas. Non, mais moi je me dis la Visma, je me dis comment est-ce qu'ils vont faire pour foirer la course, tu vois.
Oui, c'est plutôt ça. Mais je te l'ai dit, je suis en train de faire le même là. C'est pour ça que vous m'entendez pas trop. Parce
voilà,
que...
okay. Okay. Bon, bah je meuble alors. Pour que tu finisses, c'est ça. Mais je sais pas, la Lidl Trek. Je pense qu'ils ont aussi. Même si Pedersen il a gagné aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de pression. Et ça t'aide aussi à faire une course offensive où tu tentes des trucs, où tu te poses peut-être un petit peu moins de questions que « Ah, est-ce que si j'attaque et machin ?» On n'est pas trop au courant de tous les sacrifices, entre guillemets, que les coureurs ont fait cet hiver. Enfin voilà, alors que tout le monde sait que Van Aert, il n'a pas fait de cyclocross, qu'il n'a pas fait Milan San Remo, qu'il a fait ses stages, là je sais pas où... En Espagne, donc
un volcan, je sais plus où.
La pression, c'est ouais, c'est ça. Il doit bien le connaître, le volcan. Il va le faire monter en éruption, ça se trouve, à force de rouler dessus. Et donc ouais, je pense que la Lidl Trek a montré, en tout cas là, et notamment avec la course d'aujourd'hui, que bah, qu'ils vont pas trop se poser de questions et puis qu'ils vont faire avec leurs armes, qui sont très très bonnes. Sur le papier, c'est pas ce qu'on attend numéro un, mais clairement, ils vont mettre le bazar et je pense qu'à surtout sur Paris-Roubaix, ils vont être costauds parce que c'est oui. Une course où il faut anticiper Stuyven, Pedersen, Milan, ça bouge pas d'un pet sur les pavés, ça c'est du costaud.
Ouais, ça fait 80 kilos.
Ouais, voilà, c'est eux, ils font des tranchées dans la trouée d'Arambert, tu vois.
Oui.
C'est,
ah
voilà,
oui, les pavés, ils se plient en tout, en fait.
Donc donc je pense qu'aussi l'avantage, c'est que du coup pour le Tour des Flandres, ils vont, je pense, y aller avec beaucoup moins de pression.
Bah, la Visma, là, ils ont, avec tout leur blabla sur les préparations, les trucs, c'est sûr qu'ils ont la pression maintenant. Enfin, notre Van Aert, il a la pression de la presse belge, il a la pression de tout le monde. Après, je pense que c'est quand même... Enfin, secrètement, j'espère quand même j'espère vraiment qu'il va faire une bonne saison et qu'il va avoir une bonne saison classique, surtout. Ça me ferait mal au cœur de le voir pas trop vraiment que toute sa préparation ne serve pas à grand chose et au bout d'un moment je pense que ça va quand même payer. Enfin, faut pas non plus trop cracher sur la Visma. J'espère vraiment que ils vont avoir un poids sur la course et ça fait après c'est toujours bien d'avoir la Lidl aussi qui attaque un peu le monopole Visma.
Mais tu vois, ils étaient pas ils n'étaient pas ouf non plus ce week-end, la Visma.
Non.
Je pense que clairement, Jorgensen, il est hyper fort. Franchement, il l'a montré à E3. Mais par contre, Tratnik, il nous sort un tour d'Algarve. Alors, à mon avis, il s'est transformé en grimpeur. En faisant le tour d'Algarve qu'il nous fait. Mais non, parce qu'il gagne quand même le Ljeuws-Blat. Là, pour le coup, ils avaient été hyper bons, la Visma. Et clairement, Benoît et Tratnik, sur ces deux jours-là...
Moi, Tratnik, je pensais vraiment le voir en équipier ultra fort. Après, justement, sa victoire au Ljeuws-Blat, il est nulle part, là.
Et du coup, il n'y a personne pour faire le taf, pour rouler correctement dans le peloton derrière, pour rentrer sur Pedersen et Van Der Poel aujourd'hui, pour que Koch ait une chance de gagner. Alors oui, ils n'avaient pas la grosse armada aujourd'hui, mais ça n'empêche que c'est... c'était décevant, hein. Et maintenant, on les attend forcément au plus haut niveau sur toutes les grandes courses. Et là, on avait deux grandes courses en trois jours. Et voilà, mis à part Van Aert et Jorgensen, qui pour moi sont clairement dans le coup. Le reste de l'équipe, alors ce ne sera pas la même team alignée sur le round 2, mais c'est pas rassurant. Enfin voilà, quand Affini, Benoît, Tratnik, vu ce qu'ils ont montré pour l'instant, c'est pas ouf. Van Barle à le 3, bah, alors peut-être qu'il l'a fait en à moins qu'il ait eu un souci et que j'ai pas été au courant, mais sinon
il était nulle part.
Il finit au fin fond du classement.
Regardez ce même exceptionnel.
Il y a des trucs pas hyper rassurants. Ça, tu l'as fait. Alors.
Aïe. Il est incroyable.
Voilà. Alors
on valide,
maintenant,
on valide.
Ça va. À deux doigts, je vais demander à Titien s'il peut le mettre sur la miniature, même en tout petit, en haut à droite ou à gauche.
Oui, il faut.
Et ce sera notre deuxième image de com pour le Tour des Flandres cette semaine. Voilà. Le mec est fier de sa connerie.
Mais après, tu vois, Van Aert, ça se trouve, il est en train de grimper 15 000 fois son volcan parce qu'il veut devenir un mec de grand tour. Hein.
Non, mais c'est ou alors parce qu'il va être trop fort, tu vois, ça se trouve. Juste, en tout cas, voilà, moi, je vous ai dit de donner mon avis, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire, le gars, il a tout changé. On sait qu'il peut être méga fort. Il s'est rendu compte que les années passées, c'était pas ouf. D'ailleurs, même l'année dernière où il voulait être champion du monde de cyclocross, il a, malgré qu'il ait dominé toute la saison, qu'on l'ait vu loin devant Van Der Poel et tout, le jour J, bah, il était un peu en retrait. Van Der Poel a montré complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'on pouvait encore être en difficulté 15 jours avant un objectif et venir tout péter la semaine suivante. CF, Lestrade, Bianchi et Milan Sanremo. Bah voilà, je me dis pourquoi pas. Van Aert, il a bien géré son coup. Je pense qu'à la Jumbo, ils font partie des équipes qui ont les meilleurs préparateurs physiques, etc. etc. Donc voilà, j'ose espérer qu'il sera capable de ne pas avoir fait tout ça pour rien et de nous montrer le meilleur Wout Van Aert cette année, parce qu'on l'a déjà vu capable d'accrocher Mathieu Van Der Poel dans les monts. On a vu que sur les deux dernières années, c'était compliqué. Et ben voilà, là, il a changé des choses pour que ce soit de nouveau possible. J'espère que ça le sera.
Ah oui.
Voilà. Écoutez,
non, mais, ouais, on va pas.
C'est bon, on va s'écracher sur Wiesbaden.
Non, mais non, c'est pas ça. Mais au moins, on a assez teasé la preview, je pense. Là.
C'est ça, preview que vous allez retrouver cette semaine. Car oui, mesdames et messieurs, c'est peut-être la course la plus excitante de l'année qui nous attend dimanche prochain. Preview aux petits oignons à venir voir. Comme on vous l'a déjà dit, n'hésitez pas à mettre un like sur ce live. N'hésitez pas à vous abonner ou à faire tourner la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous ne l'avez pas encore fait tourner. Car on espère atteindre les 2000 abonnés. Et quelque chose me dit que peut-être après que ce live soit mis en ligne avec la preview du round 2 cette semaine, peut-être qu'on aura une belle surprise d'ici la fin de la semaine. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs, sur ce tour de Catalogne et sur ces premières grosses Flandriennes.
Bah ouais, oui. C'était très intéressant de pouvoir revenir sur cette semaine où il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et ben on attend, là je crois que maintenant ça y est, là on attend tous avec impatience à travers les Flandres mercredi. Pardon.
Dimanche.
Non, surtout voilà, dimanche le tour des Flandres, la course la plus incroyable de l'année. Et bah ouais, voilà, rien de plus à dire.
Oui, bah il faut remercier aussi tout le monde pour un peu le boom qu'on a eu ces dernières semaines, pour le travail de tout le monde. Et aussi les gens qui nous écoutent. Je pense que c'est assez important de vous remercier.
De ouf. Tout à fait, sachant en plus, comme dit, que vous êtes hyper nombreuses et nombreux depuis le début des lives, là, les stats de 50 personnes en live et tout, on est même passé, je crois, 70 la semaine dernière sur le bilan de Milan Sanremo et tout, c'est des stats qu'on faisait sur les années passées uniquement sur les grands tours, Tour de France après des grosses étapes, et on était refait, donc c'est vraiment génial pour nous de pouvoir partager avec vous en direct notre passion qui est le vélo. Messieurs, merci pour ce live.
Mais avec plaisir, merci à tout le monde.
Mesdames, messieurs, on se retrouve cette semaine pour la preview du round 2, donc restez absolument connectés. Également, n'oubliez pas de vous alimenter, car vous savez, les Flandriennes, ça creuse, il y a du dénivelé, il fait pas beau, etc. etc. Donc on s'alimente. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, bonne soirée, merci encore de nous avoir suivis. Ciao, ciao.
Salut tout le monde, ciao, ciao.
Bisous.